一步一步的发达，一步一步的发达。
Aujourd'hui, je suis avec Osée. Osée, c'est Zoé, elle a 24 ans et c'est la créatrice de Bonne à marier. BAM, c'était d'abord sur YouTube, ensuite c'est devenu un podcast et maintenant un compte Instagram. Zoé, c'est une féministe forte et engagée. BAM, ça parle de la commercialisation de l'intime. Et il y a aussi une de tes grandes passions, les livres, qui t'a amenée à te lancer sur TikTok pour faire des critiques littéraires et être booktokeuse. Autant de choses qui, à force de te suivre sur les réseaux sociaux, m'ont fait me dire que nous avions pas mal d'intérêts communs et que ça serait chouette qu'on se rencontre. Alors nous voilà pour un portrait plus intime sur Zoé, derrière Osée, et la place du féminisme dans ta vie. Alors, qui est Zoé derrière Osée ?
Déjà, merci pour cette présentation, ça me fait déjà très très plaisir. Zoé derrière Osée, comme tu le disais, en réalité c'est une jeune femme de 24 ans, qui a grandi dans le sud de la France, et j'ai un petit peu créé ce pseudonyme et ce personnage pour dissocier ma vie intime de ma vie sur les réseaux sociaux et même mon engagement militant, même si Zoé est aussi militante. On va dire que c'est l'intime, c'est ce que je suis avec mes proches, avec mes amis, dans la vie de tous les jours, et Osée, c'est mon militantisme sur les réseaux sociaux. Je pense que je pourrais le définir comme ça.
Trop chouette. Et du coup, ma première question, on va tout de suite aller dans le fond du podcast. Qu'est-ce que le féminisme pour toi ?
En fait, c'est l'une des questions les plus évidentes normalement, mais c'est peut-être la question qui va sûrement être la plus difficile pour moi, parce que mon féminisme aujourd'hui, il est totalement différent de celui que j'avais hier, et même en 24 heures, il change. Je pense qu'il n'y a même pas une définition unique, et ça serait plutôt c'est quoi les féminismes, étant donné que en fonction des journées, en fonction de mes rencontres, de mes découvertes, il évolue. Mais si je devais donner une définition unique, je dirais que c'est de manière concrète la défense des femmes, la défense de leurs droits, l'accès à l'égalité, et de manière plus poussée, c'est la défense de leur vie. Parce que moi, mon féminisme, il est très lié à la défense de la vie des femmes, dans le sens où je milite contre toute violence, je milite contre un accès à différentes choses qui nous sont interdites lorsqu'on est des femmes, les violences de genre, les violences sexuelles, etc. Et donc du coup, c'est une question qui est simple, mais pour moi qui est hyper difficile, parce que aujourd'hui à 24 ans, le féminisme pour moi c'est ça, mais je pense que dans une semaine ça sera peut-être même plus ça, ça sera autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose de itinérant et qui fonctionne par vagues. C'est pour ça que historiquement dans le féminisme il y a des vagues, il y a la première vague avec les suffragettes, il y a la deuxième vague qui est on va dire un féminisme matérialiste. Là on est dans une troisième vague qui est plus liée à d'autres droits, à une libération sexuelle, et aujourd'hui je me trouve dans cette troisième vague, mais je sais pas où est-ce que je serai demain quoi.
Mais tu vas évoluer aussi avec ce mouvement, et je pense qu'on évolue toutes avec ouais. Ça qui nous porte et qui est très, très fort aussi finalement, toutes ces femmes qui s'embarquent là-dedans.
Ouais, historique.
C'est quand que t'es devenue féministe et c'est quoi ton... Est-ce que t'as eu un déclic spécifique qui a fait te dire, mais en fait, je suis féministe, je l'affirme et je l'assume, ou est-ce que ça a toujours été en toi ?
J'ai l'impression que ça a toujours été en moi, mais je pense que c'est peut-être un fantasme ou une vision modifiée de la réalité, parce que j'ai pas tous les souvenirs. Je sais que dans ma personnalité, j'ai été éduquée par des femmes féministes, par ma grand-mère, par ma mère et par mon père qui est féministe aussi. Donc j'ai eu cette éducation féministe. J'ai toujours été dans la défense des autres. Même enfant, j'étais assez comme ça. Et en fait, je pense que mon premier déclic, c'est l'expérience de la marche dans l'espace public quand je suis ado et que je me rends compte que j'ai peur tandis que mon grand frère n'a pas peur, et que là je me dis tiens, il y a peut-être un petit problème, pourquoi la rue ne m'est pas accueillante. La première fois en fait que tu prends conscience que ton corps il peut être envisagé comme un fantasme, un désir, une marchandise, ça c'est... Dans ma tête, je pense qu'à 14 ans, je me disais pas de manière très claire que c'était ça, mais en tout cas, j'avais un peu les symptômes de la peur, de la prise en, de la conscientisation. Je sais que à 16 ans, non, à 15 ans, pour mon TPE, j'ai fait un TPE sur l'histoire du féminisme du 18e siècle. Donc je pense que j'étais déjà, le sujet historique et le sujet du féminisme m'apportaient déjà énormément. Et donc je pense que après au lycée, ça s'est beaucoup plus affirmé dans des prises de parole, dans mes groupes d'amis, jamais en extérieur. Puis après, les réseaux sociaux sont arrivés. J'ai l'impression toujours été celle qui parlait de recommandations, qui relayait des informations. J'ai été pendant très longtemps, en fait, juste relais d'informations et pas productrice d'informations ou productrice de contenu. Là, aujourd'hui, le féminisme fait vraiment partie de mon quotidien, de ma peau, de ma chair, depuis qu'il y a osé, effectivement, parce que je passe plus une journée sans en parler. C'est devenu comme une culture, je crois. Et ouais, je pense que c'est ça. Ça passait de mes 14 ans et puis après, la conscience politique qui se développe et qui se développe tous les jours, quoi. Il y a un an, mon engagement militant et politique était bien plus faible. Faible dans le sens où il était là et je militais déjà dans ma tête pour les mêmes choses. Mais aujourd'hui, le fait de prendre la parole, de m'exprimer sur certains sujets, de rencontrer des militantes, d'être en manifestation, de faire du collage, etc. C'est plus militant. Donc, voilà.
Donc, c'est parti finalement de quelque chose qui était très fort en toi, du ressenti aussi finalement de certaines injustices, ou que ce soit toi qui les vives directement ou de les voir chez les autres.
Ouais.
Tu disais que du coup, tu étais colleuse.
Ouais.
Comment t'as décidé de t'investir ? Donc, pour rappel, pour ceux qui savent peut-être pas forcément ce que c'est des femmes qui... C'est des collèges que vous pouvez voir dans les rues de lettres qui passent des messages féministes, notamment sur les violences faites par les hommes sur les femmes.
Ouais.
Comment, toi, t'as décidé de t'investir dans cette dynamique ? Comment on fait aussi pour s'y investir ? Et qu'est-ce qui te porte et te plaît là-dedans ?
Alors, je me sens colleuse étant donné que... Très souvent, je prends ma colle et je pars dans les rues coller avec des amis. Par contre, je ne suis pas associée à un collectif, donc je le fais que de manière avec mes potes et mes proches. J'ai été à un moment dans un collectif. Aujourd'hui, je ne le suis pas parce que pour des contraintes de temps, d'investissement, c'est quelque chose que je fais en mode pratique personnelle. Mais du coup, c'est venu. Je pense que le déclic, c'est quand j'en ai vu un dans la rue. J'ai vu un On te croit pas très loin d'ici et c'était la première fois que je voyais ces feuilles blanches sur ces lettres noires. Donc le collage qui est génial, c'est que c'est une seule et même identité graphique et on entend la voix de plein de femmes derrière et moi ça m'a bouleversée parce que d'un coup je me disais là la rue me parle et en fait ça fait vraiment le lien avec ce que je te disais avant parce que l'expérience de l'espace public a sûrement été un très gros déclic pour moi et là le fait que des femmes l'investissent ça m'a de suite parlé en fait. Puis je me suis renseignée, j'ai commencé à écrire des articles sur les colleuses, donc j'en ai rencontré puis en fait j'ai une amie qui était déjà dans un collectif et qui m'a un petit peu intégrée. Donc aujourd'hui c'est une pratique que je recommande, un peu comme les 5 fruits et légumes. C'est vraiment, tu vois, c'est quelque chose de très simple. Et en fait, c'est un sujet qui est hyper important pour moi parce que je suis en train d'écrire un documentaire sur le sujet où je pars une nuit avec des colleuses et j'ai une réalisatrice qui filme tous ces moments. Ce qui est génial avec les collages, c'est que il y a à la fois le message politique, symbolique, poétique des femmes qui écrivent dans la rue pour rendre visibles les violences qu'on subit. Mais il y a aussi toutes les interstices dans le collage qui se font avant le collage. C'est-à-dire que pour coller, tu te rends concrètement à Leroy Merlin, t'achètes de la peinture, un pinceau, une bassine, une brosse. Ce qui est bien, c'est que c'est peu coûteux, ça peut être réutilisé énormément de fois. Puis après, tu te retrouves dans un appartement ou dans un lieu avec la personne avec qui tu colles. Et donc là, tu dois mettre toutes les lettres une à une sur des feuilles blanches. Et en fait, il y a énormément de choses et de liens avec la sororité qui se place dans ces moments-là. T'as ta copine qui va peut-être te tendre son sèche-cheveux pour que les lettres sèchent plus vite parce qu'en fait, la nuit arrive et qu'il faut aller coller et que peut-être que le lendemain, tu travailles, donc faut quand même coller la nuit parce que c'est encore un peu dangereux, même si aujourd'hui, c'est plus considéré comme du vandalisme. Et ça peut l'être, mais on va dire que les policiers nous embêtent plus, ils nous demandent juste d'arrêter de coller. Mais il y a plus autant de violence, en tout cas pas à ma connaissance et pas dans l'expérience que j'ai vécue. Et donc du coup, c'est plein de moments où c'est des discussions avec des femmes, c'est un moment très sororal, c'est entre nous, c'est un moment où tu peux partager ton histoire. Et moi, chaque collage... rend compte de mon vécu. En fait, c'est quelque chose de personnel, mais ce que j'aime dans le collage, c'est que ce que je vais écrire va sûrement résonner dans la vie de quelqu'un d'autre. Et moi, quand j'ai lu un « On te croit », bah forcément, ça m'a bouleversée et j'essaye voilà, d'en faire quand j'ai le temps. Donc ouais, le collage, c'est un bon moyen d'être sur le terrain, en fait, je crois.
Et donc ça, est-ce que c'était ta première expérience militante, on va dire, au cœur de l'action, au-delà des convictions que tu peux avoir, ou tu avais déjà avant été en manif, été en...
C'est une super bonne question. Avant le collège, j'ai déjà été en manif avant ça, blocus, etc. J'avais déjà expérimenté, mais aujourd'hui, c'est plus quelque chose que je fais hebdomadairement. Enfin, tu vois, c'est plus là où je trouve mon militantisme. Mais ouais, je pense que c'est l'une des premières expériences militantes. Après, on va dire que j'étais investie dans des associations. Est-ce qu'on peut se dire que c'est du militantisme? J'ai été, par exemple, avec Amnesty International pour des décisions de destin de femmes qui me semblaient absurdes. Et donc, du coup, j'ai milité auprès de l'association du 15e. Mais je pense que ouais, le collage, c'est quand même l'une des... C'est très concret parce que t'es dans la rue, tu fais quelque chose, puis il y a une adrénaline, il y a la rencontre, il y a le terrain. Donc ouais, je pense que quand même, c'est l'une... Ouais, carrément.
Une des premières expériences que tu as eues sur le terrain. Tu as parlé de sororité.
Ouais.
BAM, ça a commencé avec une interview de ta grand-mère sur ta chaîne YouTube, que je recommande vraiment, elle est très chouette. Et avant d'en parler, de parler plus en détail de BAM, c'est quoi la sororité pour toi et quelle place occupent les autres femmes dans ta vie? Parce que tu as dit tout à l'heure que tu avais été éduquée par des femmes, par des gens en fait, par des personnes féministes. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ce que ça représente pour toi la sororité et...
Alors déjà, je dirais que la sororité, c'est quelque chose qui n'est pas inné. Du fait de notre sociabilité et de la société patriarcale, on a, en tout cas, je parle en mon nom, j'ai grandi, certes, dans un univers féministe, mais si jamais je suis 100% honnête avec ce que j'étais au collège ou au lycée, j'ai grandi à travers le regard des hommes et j'ai pas toujours été celle qui était toujours entourée de femmes. J'ai un grand frère, j'avais beaucoup d'amis garçons. J'en ai encore aujourd'hui, hein, pas de panique. J'ai encore beaucoup d'hommes dans ma vie, mais c'est vrai que j'étais un peu celle qui disait les filles c'est un peu prise de tête, je me sens bien avec les garçons, etc. Et en fait, je l'ai compris après que on nous sociabilise et on nous fait grandir dans la rivalité à travers le regard masculin. Et ça, je l'ai compris après. Et en fait, c'est pour ça que je dis que la sororité c'est pas inné, à contrario de la fraternité qu'on nous rabâche. Liberté, égalité, fraternité, les boys clubs, toutes ces connivences entre hommes, tout ça existe et je pense que c'est pas non plus inné, hein, c'est culturel, mais ils l'ont intégré beaucoup plus que nous. Et donc je pense que l'expérience de la sororité, comme je te disais, j'ai quand même toujours eu beaucoup d'empathie et beaucoup un regard bienveillant sur les femmes, mais ma sororité s'est vraiment développée avec mon engagement féministe. J'ai commencé à... En fait, quand tu te rends compte que ce que tu vis, mais que surtout ce que les autres vivent ailleurs, et qui est surtout bien pire que ce que tu vis, ce que vivent les femmes, etc., c'est des injustices, et que tu veux pas vivre dans ce monde, et que t'as envie de mettre ta pierre à l'édifice, bah, d'un coup, ton regard, je crois qu'il est obligé de s'adoucir. Donc, la sororité, c'est... Moi, j'arrive vraiment dans ma tête à l'imager. C'est des liens qui sont tissés, qui sont presque invisibles entre nous. Mais en fait, quand on se retrouve entre femmes et qu'on raconte nos vécus, bah, des fois, c'est dans un regard. C'est dans une façon de prendre soin de l'autre. Pour moi, c'est ça, la sororité. C'est cette bienveillance qu'on a et qui, lorsqu'on se rend compte qu'on fait un peu partie tous du même bateau et que, ce bateau, il est pas facile parce que y a les violences, y a l'actualité, il y a toutes les oppressions que peuvent vivre les femmes, mais que en même temps, les femmes à l'intérieur de son bateau peuvent être des bouées de sauvetage. Moi, je me suis vraiment rendu compte que les femmes m'ont aidée à plein de moments de ma vie et le fait de parler de féminisme m'a aussi permis de m'extirper de ce bateau. Enfin, tu vois, c'est très imagé, mais c'est ça. Et au départ, j'avais beaucoup d'hommes dans ma vie. Et aujourd'hui, en fait, depuis surtout un an et demi, je me rends compte que je suis beaucoup plus avec des femmes. Je sens, enfin, c'est pas voulu, hein, c'est pas volontaire, mais c'est vrai que au fur et à mesure des rencontres, les femmes prennent une très grosse place dans ma vie, de par mes réflexions intellectuelles, mais aussi au quotidien. Vraiment, elles occupent une très grande place. Et puis, comme tu disais, ma grand-mère et ma mère qui ont été décisives dans ma pensée, puisque ma grand-mère, c'est une femme des années 30 et c'est pas une militante, elle a pas œuvré sur le terrain pour les droits des femmes, mais en fait, elle était féministe dans son intimité. Elle a vécu historiquement des grosses avancées pour les femmes, la pilule, l'avortement, le droit de vote. Et donc, du coup, elle a éduqué ma mère en lui disant qu'il fallait qu'elle soit dans une indépendance la plus totale, parce que elle, financièrement, elle n'était pas indépendante. Et même si elle a vécu un mariage très heureux, Je pense que ça lui a manqué, cette indépendance financière. Et donc, du coup, j'ai grandi avec une maman, et de par les privilèges qui sont propres à la famille dans laquelle j'ai grandi, et par son travail acharné, c'est une femme qui est extrêmement indépendante, tant sur le plan financier que sur le plan humain. Moi, j'ai grandi dans une famille où c'est ma mère qui tient la baraque, et c'est mon père qui fait davantage, on va dire, je sais pas... les tâches ménagères, même s'il y a une répartition des tâches, qui fait la cuisine par exemple, enfin, c'est des détails mais ça compte en fait. Et donc du coup, voilà, j'ai ma mère qui, je pense qu'à 5 ans, elle me prenait les yeux dans les yeux, elle me disait « Zoé, tu te fais, enfin, ne te fais pas marcher dessus ». J'ai vraiment des souvenirs de ma mère qui, au moindre truc un peu avec des garçons et tout ça, qui était là « Non, en fait, tu te laisses pas ça ». Zoé, sois indépendante, ne dépend jamais d'un homme, fais ton chemin. Et donc du coup, j'ai vraiment grandi dans ce mindset. Je suis désolée, j'utilise un terme anglais, je déteste ça, mais c'est quand même cet esprit là dans lequel j'ai grandi en étant ado, et le fait d'avoir une maman indépendante, même si il y a énormément de femmes qui sont indépendantes mais qui sont dépendantes financièrement, c'est pas juste ça, juste une femme dans sa manière de penser qui m'inspire beaucoup au quotidien, ça a changé pas mal de choses, je pense.
Ouais, carrément. C'est hyper fort ce que tu dis, et c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent, le fait que notamment dans les situations de violence, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas partir parce ouais. qu'elles sont dépendantes financièrement, et finalement avoir cette indépendance et arriver à cultiver cette indépendance au quotidien, que ce soit financière ou même morale et mentale, des hommes qui t'entourent, que ce soit amoureux ou pas. C'est hyper important, quoi. Ça te permet aussi de te sauver le jour où t'en as besoin. C'est hyper fondateur. Et sur la sororité, je suis tellement en accord avec toi sur le fait que c'est pas inné. Genre, on nous l'apprend jamais, en fait. On est obligé de se l'apprendre entre nous. Parce que moi, j'ai exactement pareil que toi, du genre à dire « Oh, mais bon, les filles, y a plus d'histoires, il y a plus de problèmes. Les garçons, c'est plus simple, quoi. » En fait, aujourd'hui, je me rends compte que tellement pas, quoi. Enfin, en fait, enfin, c'est une généralité qui peut être fausse en fonction des personnes qu'on côtoie, mais en fait, être avec des femmes, c'est aussi... oui, elles sont plus simples, peut-être, les relations avec les garçons, mais des fois, elles sont beaucoup moins riches aussi. Et je trouve que le jour où t'apprends qu'en fait, on peut soutenir et on peut ne pas être dans la rivalité, il est hyper fort et hyper fondateur aussi.
Et je pense même que ça se cultive et que ça peut être aussi un effort. Mm. Tu vois, moi, je me suis mis une règle. Alors, elle peut paraître un peu extrême et du coup, manquer d'objectivité, mais je pars du principe que une femme qui prend la parole ou qui est exposée médiatiquement, socialement face à un sujet, va forcément se faire critiquer. Et moi, j'ai décidé depuis 2-3 ans à peu près, on l'a décidé avec ma mère, on s'était dit un matin, ok, bon, à partir d'aujourd'hui, on ne fera plus ça. On a décidé de ne plus critiquer publiquement des femmes. Mmh. C'est-à-dire que ça veut pas dire qu'on est d'accord avec toutes les femmes, et c'est parce que t'es une femme, tu dis pas des conneries, évidemment. Moi, je me désolidarise de plein de mouvements féministes aussi. Je me désolidarise juste de plein de pensées. Il y a pas que le féminisme, juste de plein de pensées du quotidien. Mais par contre, face à d'autres personnes, je ne vais pas les critiquer. Je vais juste passer à autre chose. Garder mon esprit critique, parce que c'est très important de garder son esprit critique. Mais voilà, tu m'entendras jamais même dire que si jamais je lis un livre mauvais, par exemple pour mes critiques littéraires, si jamais je lis un livre mauvais et que j'ai pas... si jamais il y a rien qui fait que je dois parler de ce livre absolument sur les réseaux sociaux, bah en fait, je vais dire que voilà, c'est pas quelque chose qui m'a plu, mais je vais pas aller défoncer l'autrice, quoi. C'est impossible pour moi aujourd'hui de critiquer de manière non constructive et de manière un peu trop intense la pensée d'une femme sur les réseaux sociaux. C'est impossible. Et c'est trop marrant parce qu'en fait, quand t'es féministe, bah c'est sous, on te pose tout le temps les mêmes questions. Genre moi, dès que je parle du fait que je suis créatrice de contenu féministe, on va me dire et du coup, tu penses quoi de Sandrine Rousseau? Comme si ça avait un lien inné et que bah moi il fallait absolument que soit je me désolidarise d'elle, soit que je me solide, enfin soit que je la défonce, soit que j'accueille son. Bah en fait ça je refuse de répondre à ces questions. Dans mon intimité évidemment on va avoir des débats, il y aura tous ces débats là et on peut, je peux débattre, mais avec des gens pour qui je porte pas d'intérêt ou sur les réseaux sociaux, je me refuse de parler de ça parce que quoi qu'il arrive elles vont se faire critiquer. Donc c'est vraiment pas inné quoi, c'est vraiment un apprentissage du quotidien et comme tu dis personne nous l'a appris quoi. Donc faut cultiver ça absolument.
Ouais, c'est une règle, je sais que je me la suis fixée aussi après avoir lu, bah c'est Alice Coffin qui en parle, ouais. Dans Le génie lesbien, qui défend cette idée que c'est pas qu'elle est d'accord et ça veut pas dire que après en privé elle va pas aller en parler avec la femme et si enfin si le contexte s'y ouais. prête. Lui dire, écoute, je suis pas forcément d'accord et essayer d'avoir un débat directement avec la personne, mais pas publiquement, quoi. Ouais, parce que sinon, bien. C'est le pugilat assuré et c'est un peu ce que je trouve terrible, c'est que tu le vois quand, que ce soit sur LinkedIn, sur Insta, quand il y a des femmes, notamment féministes, qui postent un avis sur quelque chose, je pense qu'il n'y a même pas de règles. La majorité, si c'est un avis un peu tranché ou un peu trop intense, c'est des vagues de harcèlement, bon, on en parlera plus tard, mais des trucs horribles alors que déjà, si en tant qu'entre femmes, on se fait pas subir ça.
Ouais.
Ou aussi, on enlève une forme de pouvoir aux hommes, je pense, en faisant ça.
Totalement. Et en fait, on leur en, on donne, je crois que c'est l'expression, c'est on donne du moulin, c'est ça? Enfin, on donne
du grain à moudre.
Ouais. En fait, on leur donne du grain à moudre parce que je pense qu'il y a énormément d'hommes qui jubilent quand des femmes se clash à la télé, je pense.
Ouais, carrément.
Dernièrement, médiatiquement, en fait, c'est juste des arguments en mode « Non, mais en fait, même dans le féminisme, vous êtes pas d'accord, et donc, du coup, comment vous voulez qu'on s'intègre ?» Enfin, moi, c'est vraiment des phrases et des lieux communs des qui sont récurrents. Et voilà, je des fois, ça peut faire penser que j'ai pas d'esprit critique, mais je veux pas qu'on se clash, en fait, parce que, enfin, ça fait hyper bisounours, mais médiatiquement, ou en tout cas sur les réseaux sociaux, je veux pas participer à ça parce que c'est juste leur donner des arguments contre nous et déjà que c'est une bataille idéologique aussi, hein, on va pas se mentir, de rhétorique très importante. On va pas leur donner ce plaisir-là.
Non, t'as bien raison, ouais, carrément. Et donc maintenant, pour parler de BAM,
ouais.
Donc c'est un média que t'as créé, c'est une chaîne YouTube où tu fais des vidéos avec des invités super inspirants. Tu parlais des villes, tout à l'heure, il y a un épisode sur les villes viriles, sur la place des femmes dans l'espace public. Il y a des vidéos sur la femme dans la préhistoire. Enfin, il y a vraiment des vidéos super chouettes. Depuis récemment, c'est un podcast. Alors, avant de parler vraiment du podcast et de la thématique profonde, pourquoi ça s'appelle BAM? C'est quoi BAM? Pourquoi ce nom et pourquoi ce projet?
C'est hyper important que j'en parle, mais j'ai encore un peu de mal à raconter aussi l'histoire de ce nom. Mais d'abord, bonne à marier, c'est une expression qu'on m'a très souvent dite. Plus jeune, notamment un été où j'ai bossé dans un bar avec mon frère, et à chaque fois que je faisais la vaisselle, j'ai souvent entendu des collègues ou des clients dire « Là, t'es bonne à marier ». Et d'un coup, ça m'a sauté aux yeux de me dire « Attends, mais je suis bonne à marier quand je fais la vaisselle et quand je cuisine ». Et donc du coup, je me suis dit mais l'enfer le mariage. Puis après, je me suis rendu compte que bah le mariage pouvait ne pas être libérateur pour les femmes et que moi dans mes relations intimes, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai vécu une très longue relation et à certains moments, je pense que j'étais aussi bonne à marier et femme mariée quoi, tu vois. C'est aussi lié à mon histoire intime et mes relations intimes et je me suis rendu compte que voilà, j'étais dans un schéma où on me disait que j'étais bonne à marier et que en fait les premières fois qu'on m'a dit ça un peu plus tôt, je pense que j'ai rigolé. Genre je pense que il est arrivé que j'étais avec des potes à mes parents ou des potes tout court qui me disaient ça quand je te disais la première fois c'est dans le bar. Je me suis vraiment dit l'enfer, le mariage. Mais si jamais je remonte un peu plus loin et un peu plus jeune et pensée politique un peu moins élaborée, je pense que j'ai souri et je pense que même ça m'a fait plaisir. Et donc du coup, tu vois, j'étais là en mode ah ouais, je suis bonne à marier. Bah, tu vois, on va dire que j'ai cru que c'était flatteur. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'expressions qu'on incorporait. En fait, qu'on a intériorisé et qu'on ne questionne plus parce qu'elles font partie de nos corps. Et quand j'ai tapé bonne à marier sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il existait des comptes de femmes, et c'est pas du tout pour les critiquer, mais je, encore une fois, c'est un regard bienveillant sur elles, qui avaient le nom bonne à marier et qui partageaient leurs recettes de cuisine. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, non, mais c'est chaud, quoi. On a incorporé ça au quotidien. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, on va retourner cette expression parce que déjà, il y a une partie de la population qui la trouve, qui ne questionne pas cette expression et qui pense que c'est vraiment, bah, c'est une expression populaire, partagée, etc. Et puis, en plus, elle claque un peu parce que ça fait bam. Oui. Et donc, du coup, ça claque et c'est chouette, tu vois. Et puis, en même temps, je vais toujours rappeler dès que possible, même si je le fais pas assez, que c'est une expression ironique. Et tu vois, typiquement, un collage que je fais souvent, c'est « je ne suis pas bonne à marier ». Et en même temps, je le suis parce que c'est mon média. Il y a ce truc de dire « arrêtons de laisser passer ces phrases du quotidien qui, en fait, disent quelque chose de notre asservissement, quoi. Mais qu'on ne perçoit plus parce qu'on les a incorporées et que, bah voilà, pour toutes ces fois où moi, j'ai souri et j'ai acquiescé sans rien dire à chaque fois qu'on me réduisait à des tâches ménagères. En fait, c'est pas juste des tâches ménagères, mais c'est le mariage en général, la dépendance, du coup, la dépendance dans les relations. Donc, voilà, c'est pour ça, bam.
Les vidéos, elles sont sur le féminisme, je dirais, en général. On est plus sur un point de vue féministe sur plein de sujets très larges. Donc, t'es partie de ça et t'es arrivée à un podcast qui parle de la commercialisation de l'intime. C'est un thème qui est passionnant et qui, je pense, enfin, l'intime dans le féminisme a une grosse place, notamment dans le féminisme. Enfin, moi, je le perçois tel qu'il est actuellement. Il y a une grosse place pour l'intime et comment l'intime vient aussi jouer sur nos relations sur les relations de domination entre les êtres, etc.
Ouais.
Est-ce que, du coup, tu peux nous dire plus sur ce thème, c'est quoi, finalement, la commercialisation de l'intime et pourquoi, toi, t'as décidé? On a compris hein, que ton féminisme est aussi très lié à ce rapport intime que t'as avec toi-même et avec ta vie. Et du coup, pourquoi ce thème et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente pour toi?
Alors, c'est vrai. Donc, ouais, bah, comme tu disais, je suis passée de thématiques générales, même si je continue sur YouTube, à ce podcast, parce que déjà, j'avais besoin d'un fil conducteur. C'est beaucoup plus facile de définir le projet BAM quand on peut y associer une thématique et un fil rouge, et j'avais besoin de ce fil rouge parce que je n'ai pas sur YouTube, et c'est aussi YouTube un peu un espace libre puisque je parle d'histoire, de féminisme, etc. Mais je me renferme sur aucune thématique, et je pense que j'avais besoin de trouver ce thème. Ce thème, il est là depuis toujours, en fait. Maintenant que je réfléchis à pourquoi je me suis mise à parler de ça, c'est quelque chose qui est là. Là, je suis un peu en train d'écrire un texte sur ça justement. Je sais pas si tu connais la théorie de la chambre claire de Roland Barthes.
Non.
En fait, c'est Roland Barthes, il va différencier par rapport à des photos. Je vais essayer d'expliquer cette théorie très simplement. Il dit que en fait, dans la vie, face à des photos, il y a le punctum et le studium. Le studium, c'est, on va dire, c'est ces photos que tu regardes dans un magazine, mais qui, tu vois, tu balayes les pages et tu les remarques pas vraiment, en fait. Elles s'imposent pas à toi. C'est vraiment les imaginaires du quotidien, quoi. Ça te transperce pas. Et puis, au fur et à mesure que tu te balades sur ton magazine, tu tournes la page, puis en fait, tu vas faire un retour en arrière. Roland Barthes ne dit pas du tout ça, mais c'est comment moi je l'interprète. Tu te balades, etc. Et puis, tu fais un retour en arrière parce que d'un coup, il y a quelque chose. Il y a un truc qui t'a transpercé, c'est un petit détail, et ça te fait revenir en arrière, et ça te fait t'arrêter un instant. Et en fait, l'intime, et plus généralement, le travail du sexe, l'échange économico-sexuel, le corps des femmes, en fait, je me rends compte que ça a été mon punctum. C'est-à-dire que c'est une thématique qui me transperce, et c'est pas moi qui vais à cette thématique, c'est cette thématique qui est vraiment venue à moi par rapport à ma compréhension du corps des femmes, par rapport aux violences que j'ai subies, par rapport à peut-être une fascination quand j'étais plus jeune de me balader dans un quartier où il y avait des travailleuses du sexe, des prostituées, et de me rendre compte que moi j'ai toujours eu un regard sur elles de « Oh mon Dieu, mais comment elles disposent de leur corps de manière librement, alors que moi, je ne dispose peut-être pas de mon corps et que je le subis ?» Donc en fait, toujours ce regard sur aussi le sexe en général. Et donc du coup, ça, je pense que c'est déjà l'intime, mon studio, mon punctum, pardon. Et donc du coup, la commercialisation de l'intime, c'est une thématique qui est assez vaste, mais qui engendre plein de sujets. Donc d'abord tout ce qui va être intimité tarifée, donc travail du sexe, création de contenu sur OnlyFans, prostitution plus généralement, escorting, etc. Donc ça, c'est la commercialisation de l'intime comme on l'entend de manière première. Puis après, je me suis rendu compte que c'est aussi comment la société envisageait le corps des femmes dans certains endroits du monde, par exemple l'excision. C'est aussi la façon dont on envisage nos relations intimes avec les applications de rencontres. C'est aussi ça peut rentrer dans le travail du sexe, mais la pornographie. Et en fait, tout ça, ça crée aujourd'hui une pensée unique de me dire, enfin, j'espère une pensée plurielle, mais un fil conducteur unique de me dire ce qui se passe dans nos pieux, ce qui se passe dans nos lits, et ce qui se passe dans nos intimités et politiques, et la manière dont ça se passe dans la vie des femmes est un carrefour de rapports de domination entre le genre, donc les hommes, les femmes, entre des classes sociales, entre des races, évidemment, énormément. J'aimerais bien faire un épisode, par exemple, sur la décolonisation de l'intime et tous les stéréotypes raciaux qu'il y a dans l'intimité des femmes racisées. Je dis race en tant que sociologie, je précise. Donc tout ça, en fait, commercialisation de l'intime, c'est cette intimité tarifée, puis cette intimité symbolique, qui est, ça peut être la publicité, en fait, ça peut être tellement de choses. Et le premier, on va dire que le premier sujet auquel je pense, et qui d'un coup m'a fait dire, ok, la boucle est bouclée, je tiens à quelque chose, c'est que l'un des premiers échanges commercial et intime, c'est le mariage. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit qu'en fait, Bon à marier avait tout son sens, et que c'est pour ça que c'était déjà là dans ma vie, en fait. Le mariage, si jamais, bah, comme tu disais, des femmes qui sont en dépendance économique et qui veulent partir, mais qui ne peuvent pas parce que y a des enfants et parce que, bah voilà, elles ont pas d'autre choix, bah en fait, c'est un échange économico-sexuel. Et donc, du coup, ça rentre dans la commercialisation d'intime. Puis après, je me suis rendu compte que j'ai longtemps été hôtesse. Est-ce que être hôtesse, c'est un échange économico-sexuel, puisque en fait, t'es payé pour être ce que tu es physiquement. Moi, en tout cas, dans les métiers d'hôtesse que j'ai fait, on me réduisait totalement à mon corps. Puis, je me suis rendu compte que j'ai été danseuse de cabaret. Bien sûr que je le faisais avec passion, mais je rentre en fait dans ce marché de l'intime. Et par diverses autres expériences, je suis totalement intégrée dans ce marché de la commercialisation de l'intime. Et du coup, je suis pas concernée par tous les sujets. Et c'est pour ça que je me suis dit, il fallait que je fasse parler les concernés, parce que de une, c'est mon punctum et c'est une thématique qui traverse ma vie. Et de deux, bah, ça dit tellement de choses de la société, ça dit tellement de choses des féminismes, ça dit tellement de choses des femmes et de nos quotidiens, en fait, que il faut en parler, puisque en plus, on n'en parlait pas beaucoup, donc je me suis dit, allez, c'est parti, on se lance là-dedans.
Trop bien. Dans un des épisodes, tu as parlé avec Chanley, qui a créé le collectif Stop Ficha, ouais. Et sa cofondatrice. Vous y parlez de cyberharcèlement, de divulgation de photos intimes, sans le consentement de l'intéressé. Donc déjà, je recommande vraiment cet épisode. Moi, il m'a énormément marqué. Je me souviens de l'avoir écouté en voiture et d'être horrifiée déjà parce que ce que racontait Chanley sur la réalité de l'affichage de photos intimes de femmes non consenties sur des groupes où il y avait des centaines de milliers de personnes sur des réseaux sociaux comme Telegram par exemple. Donc vraiment, allez écouter cet épisode, je le mettrai dans la description, il est, enfin, comme tous les autres, mais celui-là en particulier, hyper frappant. Enfin moi, il m'a beaucoup marqué. Et du coup, t'as parlé justement que toi, tu le vivais en toi, aussi, cette commercialisation de l'intime, c'était un truc qui était très puissant pour toi. C'est quoi le consentement à tes yeux? C'est quelque chose dont on parle beaucoup plus, je pense. Enfin, moi, je sais que j'en avais vraiment jamais entendu. Enfin, on a le même âge et c'est vrai que dans toute l'éducation que j'ai pu avoir sur la sexualité, etc., ça n'a jamais été formulé comme ça, en tout cas. Alors évidemment, il faut être d'accord, mais on t'explique pas à quel point c'est important, à quel point t'as le droit de dire non à tout instant, etc. Toi, pour toi, c'est quoi ce consentement? Est-ce que t'en avais conscience ou pas? Est-ce que voilà, cette notion, c'est quoi pour toi?
Je crois que c'est pareil que toi, c'est quelque chose de nouveau, le consentement. C'est d'ailleurs terrible de dire ça, hein, mais moi, j'ai grandi sans que on me demande trop, ou en tout cas qu'on formalise pas dans mes relations intimes, qu'on ne formalise pas ce consentement. Et ça veut pas dire que toutes mes relations intimes sont non consenties, évidemment que non, et heureusement. Mais c'est quelque chose de nouveau et c'est encore quelque chose de pas dîné, parce que c'est, je pense que le consentement, on a très vite peur que ça enlève quelque chose, que ça soit trop direct, alors qu'en fait, je crois que le consentement, il y a rien de plus sexy et beau que de demander le consentement à ta partenaire dans des relations intimes, mais en même temps sur plein d'autres sujets, parce qu'il n'y a pas que l'intimité et l'intime dans le consentement. Ouais, le consentement, c'est en fait s'assurer que en fait déjà ça, je pense que le principal objectif du consentement, c'est de prévenir la violence et de aussi rappeler aux hommes, et ça c'est hyper important, que on n'est pas des objets. Et que, de manière très concrète, un oui peut être un non à la minute d'après. Un non, c'est toujours un non. Et un oui qui n'est pas exprimé clairement n'est pas un oui. Enfin, c'est de manière très concrète. Parce qu'en fait, on a juste... les femmes subissent des violences sexuelles de manière presque systémique. En tout cas, des violences sexistes de manière systémique et des violences sexuelles de manière très répandue. Et je pense que dans l'éducation des hommes et dans la manière dont ils envisagent le corps des femmes, dans la manière où c'est eux les dominants et c'est eux qui s'octroient la possibilité de soit consommer le corps des femmes, soit le violenter, etc. Ils ont pas compris que c'était important. Depuis quelques années, on en parle. Et en fait, je pense que ça a fait cette notion-là a fait énormément de bien aux femmes qui ont d'abord subi des violences sexuelles. Aussi pour... en fait, moi, je pense à... J'ai pas de petite sœur, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, au lycée, au collège, j'espère que, au vu de la génération qui arrive, qui est un peu en feu et qui est en train de parler ces sujets de manière beaucoup plus libérée, j'espère que c'est vraiment des choses dont ils parlent dans les relations intimes, parce qu'en fait, ça change tout. Ça change tout. Et le consentement, c'est vrai, ma réponse, elle est un peu floue, parce que forcément, elle est liée à toutes nos intimités, mais au-delà des avancées concrètes comme l'égalité salariale, comme la place des femmes dans des rapports de pouvoir, dans des places de pouvoir, etc., je pense que l'avenir des féminismes et du féminisme est la plus grosse étape que on peut avoir dans les prochaines années, c'est le consentement. En fait, je l'avais pas réalisé, je réalise en direct, mais de manière concrète, le consentement dans tous les espaces de vie des femmes, c'est l'objectif peut-être number one maintenant, parce qu'on nous l'a trop enlevé, et du coup, ouais, c'est fondamental, et j'espère que ça va le devenir encore plus, et qu'en fait ça va même devenir, je disais, le consentement c'est sexy, j'aimerais bien que ça devienne en fait des étapes sans lesquelles tu puisses pas, des étapes que tu peux pas échapper, quoi, tu vois. Ça serait trop bien. Et ça l'est clairement pas encore, en fait. Ouais, non, c'est pas...
On n'y est pas encore. Tu parlais de la génération qui est actuellement au lycée, tout ça. Je me souviens qu'une fois, tu avais fait, il me semble, une story où tu disais que tu avais été à une manif et que tu étais hyper heureuse de voir cette nouvelle génération, du coup, enfin, celle en dessous de nous, qui arrive et qui est en feu. Qu'est-ce qui a changé, selon toi, par rapport à l'époque où nous, on était au lycée?
Ouais.
Est-ce que tu vois des choses qui ont, ouais, qui ont changé, qui ont été un peu révolutionnées par cette...
Ouais. Bah ouais, déjà je le vois. Enfin, c'est marrant parce que dès que tu me dis ça, j'ai des images en tête des dernières manifs avec des femmes très jeunes sur un abribus qui sont en train de crier des slogans féministes et genre pour moi elles ont 15-16 ans quoi. Et je trouve ça ouf. En fait, je trouve ça ouf parce que c'est une génération qui est en feu et j'ai l'impression que ils parlent de plus en plus de ça. Je pense pas avec le programme national, hein, c'est pas l'éducation nationale qui fait ça, mais entre eux, de par les réseaux sociaux, de par les scandales qui éclatent, mais tout simplement grâce à MeToo. Merci MeToo, parce que ça a libéré la parole, mais de manière... Pour moi, ça me fout toujours les frissons quand je pense à cette période, parce que d'un coup, tu te rends compte, d'un coup, on a notre parole qui a été entendue, elle a été bafouée pendant des années, et là, d'un coup, il y a un collectif mondial et on se rend compte que 50% de la population est en train de subir des oppressions, plus ou moins graves. Et donc, du coup, bah, j'ai l'impression qu'ils parlent beaucoup plus de ça. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus renseignés. T'as un peu le retour de bâton parce qu'il y a des études qui montrent que ça a jamais été aussi sexiste dans les relations, que plein de problématiques dans les relations intimes. Moi, je suis pas du tout abolitionniste par rapport au porno, mais je pense que ça, le fait qu'on biberonne les garçons et les petites filles, le fait qu'on biberonne les garçons et plus majoritairement les garçons et les filles à ça et qu'ils aient accès à ça, et du contenu pornographique pas représentatif de la réalité, pour moi ça crée de la violence dans les relations intimes après quoi. Donc du coup j'espère que c'est pas fake et que vraiment ils sont vraiment en train de comprendre des choses que moi j'aurais aimé comprendre à leur âge. Et ouais, je pense que ça change parce que c'est plus politisé. Enfin, c'est pas plus politisé. Ils sont juste plus renseignés parce qu'ils ont un accès à l'information qui est plus important que nous. Et faut trop que ça continue, quoi.
Ouais, carrément. Et c'est vrai que tu disais, ce qui est un peu terrible, c'est qu'on se rend compte, quand tu vois le rapport du Haut Conseil à l'égalité sur l'augmentation du sexisme en France, enfin, tu te dis, c'est chouette, parce qu'on a l'impression que sur certains plans, ça avance, mais il faut pas oublier que dans les faits, il y a encore un travail énorme à faire sur l'éducation qu'on fait, et notamment des jeunes garçons, mais aussi des jeunes filles.
Ouais,
ça passe vraiment par les deux. On a parlé de cyberharcèlement. C'est quelque chose qui est beaucoup subi par les féministes. T'en as fait les frais, t'en as parlé sur ton compte Instagram. Qu'est-ce que ça implique quand il arrive ce genre de choses? Qu'est-ce que ça fait vivre? Et qu'est-ce qui est important dans ces moments-là? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider quand on est témoin de ça, parce qu'on est, enfin, moi je sais que je suis, en suivant beaucoup de féministes sur les réseaux sociaux, on les voit, ces vagues de cyberharcèlement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider dans ces cas-là?
Alors déjà, je suis pas la femme qui s'est faite le plus cyberharceler, donc je peux que parler de ma propre expérience qui est finalement minime par rapport à ce que les autres femmes vivent, et c'est terrible parce que même si c'était minime, ça a eu des impacts dans ma vie, donc j'imagine même pas à grande échelle. Une femme qui expose son point de vue, un peu comme tu disais, de manière tranchée, elle va se faire cyberharceler. Moi, la plus grosse expérience de cyberharcèlement, qui, encore une fois, je veux pas la rendre spectaculaire, parce que voilà, c'est quelque chose qui a été court, qui a duré 4 jours, et qui a pas duré des mois, alors que, enfin, t'as des femmes qui se font cyberharceler depuis des années. Mais moi, ça m'a quand même fait peur, on va pas se mentir, parce que du coup, déjà je comprenais pas. En fait, j'ai été dans la totale incompréhension parce que j'ai eu beaucoup d'insultes et j'ai reçu beaucoup de DM insultants lorsque je me suis mise à décrypter une pub Nespresso. C'est une pub Nespresso qui est en affichage en ce moment avec Camille Cotin, Georges Clooney et Jean Dujardin. Dans cette pub, tu vois Camille Cotin, ils sont représentés au réveil, les garçons sont en pyjama, tandis que Camille Cotin est maquillée, coiffée, elle boit un petit café mousseux, tandis qu'ils boivent du café fort. Pour moi, j'ai juste dit qu'il y avait des stéréotypes dans cette publicité, et donc j'ai commencé à faire un petit décryptage, parce que, juste pour rappeler, moi mon métier c'est la communication, enfin c'est même pas pour rappeler, pour le dire, je suis spécialisée en communication, je suis spécialisée en communication de crise et j'ai un point de vue légitime sur la question. Et même si j'avais pas fait des études de communication, on peut exprimer un point de vue, on peut critiquer une publicité. Mais en fait, ce qui m'a choquée, c'est que de recevoir autant d'insultes, alors qu'en vrai, je dis pas des trucs de ouf.
Non, quoi. C'était, ça restait.
Je parle, ça reste hyper soft, ça reste hyper descriptif, ça reste hyper visuel. Et en fait, je me suis faite insulter de dire que je voyais le mal partout, que j'étais que j'incarnais le problème du féminisme actuel, je passe toutes les insultes que j'ai reçues. Mais j'étais là, mais en fait, heureusement que ces gens-là, ils écoutent pas mon podcast. Comment tu fais, quoi? Quand tu parles de porno et je trouve que j'ai des avis beaucoup plus tranchés et beaucoup plus politiques. Là, c'était hyper soft et édulcoré. C'est vraiment le féminisme quotidien de base. C'est pas un truc de ouf, en fait. Je voulais pas dire un truc de ouf. Et du coup, je l'ai pas vu venir. Notamment parce que j'ai commencé à faire ce décryptage en story sur Instagram et que j'ai eu énormément de femmes notamment qui m'ont dit « Putain, c'est marrant, j'avais pas vu ça comme ça. Merci, est-ce que tu pourrais continuer à faire des petits décryptages comme ça du quotidien ?» Parce que la publicité, c'est quelque chose qu'on a au quotidien. C'est hyper important de la questionner. Les pubs des années 60, moi, c'est une petite passion. J'adore retomber sur les pubs Moulinex qui dit « Moulinex libère la femme ». Quoi. Enfin, c'est vraiment un petit sujet de prédilection. Et donc, hyper bien accueilli sur Instagram. Et puis, je me suis dit, comme ça a été bien accueilli, je vais, recycler mon contenu et ma pensée et je vais la mettre sur Twitter. Que nini, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, de suite, ça a été hyper violent. Mon tweet, il a été vu 30 000 fois. J'ai eu des dizaines et dizaines de commentaires publics qui m'insultaient, mais aussi beaucoup de DM. Et ça aussi, c'était surprenant parce que... qu'on m'insulte publiquement, mais qu'on aille faire la démarche de m'écrire personnellement dans mes DM. Je me suis dit, mais putain, ils ont vraiment pas que ça à faire. Et donc, du coup, ça m'a fait flipper, on va pas se mentir, parce que je n'arrivais pas à couper mon téléphone. Et au départ, j'ai eu envie de répondre et d'insulter. Et alors, je sais que c'est pas la bonne chose à faire, hein, mais j'ai eu une sorte de rage et j'étais au travail et en fait, mon téléphone sonnait et j'arrêtais pas de réfléchir sur Twitter. Et en fait, pendant au moins une journée, j'ai pas pu travailler. En fait, concrètement, qu'est-ce que ça fait le cyberharcèlement à toute petite échelle? Et je voudrais vraiment rappeler que moi, c'était à petite échelle. Ça m'a empêché de travailler. Et donc, une journée de travail en moins, c'est une partie de, enfin, c'est pas, ça a pas impacté mon salaire, mais ça a quand même impacté mon travail au quotidien dans une entreprise. Enfin, c'est ouf comme conséquence. Ouais. Puis ça m'a empêché de dormir. Donc, c'est aussi dans mon intimité. Donc, en fait, les conséquences sur 4 jours, elles sont pas dévastatrices parce que voilà. Et puis maintenant que ça m'est arrivé, je saurais peut-être mieux réagir, mais quand même, ça impacte vraiment. Donc à grande échelle, c'est très très chaud. Et en fait, la lumière dans ces petits 4 jours un peu brumeux, ça a été les femmes. Et ça reboucle exactement avec ce que je te disais au début du podcast, comme quoi les femmes, ça peut tellement être des bouées de sauvetage. Mais je pense à Chiara, qui est une fille qui me suit sur les réseaux, mais que je connais aussi. On était en primaire ensemble et en fait elle s'est mise à répondre à ma place en fait un à un aux commentaires depuis son compte. Et en fait elle avait tous les arguments que moi j'avais, mais que j'avais la flemme de prendre le temps parce que j'avais trop peur qu'on m'insulte ou j'avais trop peur de pas être claire dans ce que je voulais dire. Et en fait elle a répondu à tous les commentaires et vraiment, mais ça m'a fait tellement de bien parce que je voyais ce que je voulais dire en direct, mais que j'avais pas la force de le dire. Et c'est ouf parce que je sais qu'elle, enfin, pour moi, c'est ce que Stopfish a fait. C'est des guerrières. Parce qu'en fait, elles prennent notre défense. Il y a beaucoup de mouvements face au cyberharcèlement en mode des cœurs ou des messages, des petites pensées, etc. Des raids de femmes qui viennent contrer toutes les insultes. Et en fait, je pense que concrètement, ce qu'on peut faire, c'est ça. Si jamais t'as l'espace mental et la force de répondre, si jamais tu sens pas que ça te met en danger et que t'es ok de répondre à des commentaires quand tu vois quelqu'un se faire insulter ou à mettre des cœurs ou à mettre en mode moi je suis d'accord avec toi ou je te crois ou on est ensemble, en fait ça fait trop du bien. Et donc j'essaie moi aussi de me l'appliquer dès que je vois des commentaires néfastes, prendre le temps de répondre ou envoyer un petit message de soutien, parce que vraiment je pense que ça fait du bien. Et puis après, si t'es vraiment pas que tu es spectatrice, mais que tu es victime de cyberharcèlement, donc cyberharcèlement en général, des insultes, mais aussi de photos dévoilées, de revenge porn, même si on n'aime pas le terme, mais peut-être qu'il parlera plus aux personnes qui nous écoutent. Il y a énormément d'étapes à faire que j'écris dans le podcast, mais t'as un numéro d'appel, tu peux signaler à Pharos, tu peux surtout écrire à Stop Ficha, qui sera là pour t'aider, pour t'aiguiller, pour te donner les étapes. Tu peux bénéficier d'une assistance psychologique, une assistance juridique gratuitement grâce à Stop Ficha. Donc vraiment des guerrières, quoi. Des guerrières du web. Donc, heureusement que ces femmes sont là, parce que ça peut vraiment t'aider, je pense.
Et donc, ouais, ne pas hésiter. Je sais que c'était quelque chose qui a aussi été... Il y avait des raids masculinistes à un moment, d'hommes qui venaient mettre, je ne sais plus si c'était des médailles ou des coupes, sous des publications féministes pour polluer les commentaires et pour... C'était même plus des insultes, c'était juste, ils arrivaient et ils mettaient des emojis, je crois que c'était des médailles, mais j'en suis plus sûre. Et c'était des trucs complètement hallucinants, quoi. Il faut vraiment être super vigilant à ça, parce que c'est hyper...
Ouais, mais ça revient un peu au côté Boys Club dont on parlait. Je sais pas si tu te rappelles de ce scandale qu'il y avait eu dans différents médias, parce que ça s'appelait la Ligue du LOL. Je sais pas si tu te rappelles, je sais plus, c'était peut-être il y a 4 ans. En fait, il y a eu une enquête qui a été révélée par Mediapart. Il y avait une sorte de groupe Facebook avec énormément de personnalités, de journalistes, de personnes de pouvoir qui étaient sur ce groupe et qui s'envoyaient des trucs horribles sur des femmes qui prenaient la parole et qui faisaient des raids sur grossophobes, sexistes, racistes, etc. Mais genre des journalistes des un rock, des gens, tu vois. Et ça s'appelait la Ligue du LOL, donc pour rigoler. Donc on était là, on insultait, on cyberharcelait les femmes, etc. Et en fait, c'est une pratique, ça revient à l'éducation qu'on a eue. Les hommes s'octroient la possibilité de nous critiquer, de nous insulter, et d'avoir en plus ce soutien fraternel, ce soutien, on est en groupe, on va pas se faire virer alors que ce qu'on fait, c'est illégal. Enfin, en fait, il y a juste... Moi, mon rêve, c'est que juste ces gens comprennent que ce qu'ils font, c'est punissable par la loi. Tout comme le racisme, comme le sexisme, comme plein d'autres choses, c'est pas des points de vue. Et en fait, je trouve qu'on a trop normalisé le fait que insulter ou ne pas être d'accord, et donc du coup l'exprimer... ne pas être d'accord avec une femme, l'insulter sur son physique, etc. En fait, c'était juste un point de vue, alors que non, c'est punissable par la loi. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur pas la peur, parce que je pense pas que la peur, ça soit un moyen, mais ce qui plane sur leurs épaules, parce que ce que peut faire la justice face à ces avis-là, parce qu'en fait, faut qu'on soit beaucoup plus protégés. Donc, et le cyberharcèlement, il y a des recours par la loi, il y a des associations, et c'est faut vraiment qu'on parle de ces recours-là, parce que quand t'as 16 ans et que t'as ta photo, t'as ton nudes qui est en train de leak sur Internet, tu penses pas à appeler. En fait, t'as l'impression d'être seule, et en fait non. Et si jamais t'es dans cette situation, en fait, t'as des femmes et des hommes qui vont te croire, et t'as des femmes et des hommes qui peuvent t'aider. C'est hyper important, quoi.
Ouais, faut pas rester seul en fait dans ces moments-là, et aller vers les bonnes personnes surtout. Ouais. Tourner vers notamment des personnes du milieu féministe, souvent ça peut être un bon moyen, au moins pour avoir des clés d'aide.
Ouais.
Donc on parlait de toutes ces femmes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous inspirer. On a parlé de ta grand-mère, de ta mère un peu plus tôt. Est-ce que tu peux nous dire quelle femme, avec un S ou pas, t'inspire au quotidien, qu'elle soit connue ou pas?
Moi, dernièrement, on m'a posé la question si jamais tu pouvais passer un déjeuner avec quelqu'un, personnalité morte ou vivante, tu penserais à qui? Et pour une femme vivante qui a beaucoup participé à ce que je suis, je pense que c'est Virginie Despentes et son livre King Kong Theory, qui, de une, je le recommande énormément. Et moi, quand je l'ai lu, et depuis chaque année, je le relis, je me suis rendu compte que c'était essentiel, parce que c'est l'une des premières à à mettre en avant les violences que les femmes subissent. Elle met en avant aussi ce marché de la bonne meuf. C'est l'une des premières à parler, enfin c'est pas la première, mais à parler de travail du sexe, à parler avec une forme. Je vais pas spoiler, mais avec une fin qui moi me marque beaucoup parce qu'elle dit que on va pas y arriver sans les hommes, quoi. Et donc t'as un peu ce message d'espoir de te dire que qu'on est dans un mouvement qui évolue, mais que faut inclure les hommes dans la lutte. Et je sais pas, moi je trouve plein d'espoir, plein de violence, plein de douceur ce livre. Donc je pense que c'est Virginie Despentes, et pas que pour King Kong Theory, hein, pour tout ce qu'elle a produit depuis. Ça me parle beaucoup, j'aime son côté trash, j'aime sa plume. En fait, j'aime les mots qu'elle emploie, elle passe pas par quatre chemins, ça me plaît. Une femme du coup pas vivante, je pense que je dirais Valérie Solanas. Je sais pas si c'est une féministe extrémiste. Alors moi je me revendique pas du tout dans un féminisme extrême, mais je trouve que des fois ça fait du bien de voir des dystopies, de voir des utopies, de voir où est-ce que ça pourrait aller dans le pire des cas et dans le meilleur des cas. Et elle a écrit par exemple Dans ton cul, et je trouve que c'est extrême, mais en fait ça te fait aussi une pause dans ton quotidien des fois qui n'avance pas ou qui avance trop vite. En fait c'est pas du tout des histoires, c'est pas du tout des schémas, des scénarios que j'aimerais qu'on vive, mais juste ça fait du bien. Et sinon ouais, femme qui m'inspire et qui m'inspirait, il y en a vraiment plein. Donc là je parle d'autrice, mais j'aime l'éloquence de Rokhaya Diallo. J'aime la vision de la place des femmes dans le cinéma et la façon dont elle prend l'espace médiatique d'Aïssa Maïga. Ça, c'est vraiment des femmes qui me parlent beaucoup. Puis après, plus au quotidien, dans mes potes, j'ai juste des guerrières. Dans ma famille, pareil, ma grand-mère, ma mère principalement, mais dans mes amis proches aussi, c'est ouf, quoi. Donc les femmes en général, c'est source d'inspiration inépuisable.
Carrément. Et Valérie Solanas, alors je sais plus qui disait ça. Il y a un qui disait que quand tu lis Valérie Solanas, après tu peux écouter une chanson d'Orelsan sans te sentir... Et je sais plus du tout qui a dit ça, c'est une féministe. Bah,
pour moi, c'est Virginie Despentes dans Cher Connard.
C'est dans Cher Connard qu'elle a dit ça, voilà, je savais que j'avais lu quelque part. Bah, dans Cher Connard, elle dit ça, et je trouve que c'est vrai que Valérie Solanas, moi j'ai lu...
Ce Scum Manifesto.
Voilà, Scum Manifesto, qui est donc un traité misandre ouvertement, et que j'invite les gens à lire, parce que c'est vrai que je suis d'accord. Ça te fait te sentir bien.
Ouais.
Tu te dis, on veut pas que ça arrive, évidemment, parce que le but, c'est pas du tout de tomber là-dedans. Donc, ouais, c'est assez frappant, et je suis d'accord que, voilà, enfin, j'avais trouvé ça génial que les pentes disent. Et donc, t'as parlé de King Kong Theory, des livres. Donc, t'as cette passion. Tu dis souvent qu'avant, lire. Dans les couloirs, c'était pas tendance, t'étais pas populaire. C'est quelque chose que j'ai connu et que j'ai vécu aussi, donc je vois très bien ce que tu veux dire quand tu dis ça. D'où ça vient, cette passion pour les livres? Et ça veut dire quoi aujourd'hui être booktalkeuse?
Alors, je pense que les livres, moi ça fait partie de moi et de ma vie et de mon enfance, parce que j'ai eu une mère qui, de par l'indépendance qu'elle a su gagner, etc., m'a toujours dit, tu vois, c'était pas, j'ai grandi dans un milieu privilégié, mais c'était pas open bar surtout. J'ai eu une éducation quand même stricte. Ils m'ont apporté énormément de valeur, mais ma mère m'a toujours dit, les livres, je t'achète tous les livres du monde que tu veux. Si jamais tu veux un livre, je te dirai jamais non. En fait, elle m'a fait grandir en me disant, je te dirai jamais non si tu veux un livre. Et donc du coup, en fait, j'ai eu cette possibilité de lire très tôt, et en fait, ça a été mais un refuge terrible, parce que je suis très solitaire. J'apprécie beaucoup ma solitude, et aujourd'hui, je crois qu'on en parle beaucoup. Ça me fait du bien de comprendre un peu pourquoi je suis comme ça, mais tout le temps que je passe avec des gens, j'ai besoin de le passer seul. Et si jamais j'ai pas beaucoup de moments seul, j'étouffe et je fais des crises d'angoisse, et du coup, en fait, moi, les livres, ça a été ce refuge-là. Je passais mes nuits à lire. J'étais, ça, je sais pas comment expliquer, mais peut-être que ça aussi, on va dire que je correspond aux normes physiques et que j'ai jamais subi d'oppression par rapport à mon physique. Mais moi, je pense que j'ai grandi en ayant très peu confiance en moi et en mon corps. Et donc, du coup, j'ai tout mis sur l'intellect. Enfin, tu vois, j'ai grandi avec un besoin de rigueur. J'ai été première de ma classe toute ma vie. Je suis déjà un peu en train de faire ce travail introspectif sur pourquoi je m'impose cette telle rigueur. Mais j'ai vraiment mis énormément dans l'intellect. Et donc, du coup, en fait, lire m'apportait confiance en moi, répartie, parce que j'étais pas forcément quelqu'un de discrète, de renfermée sur moi-même, mais j'étais quand même seule dans mon monde à beaucoup de moments dans ma vie, ou avec mon grand frère. Donc voilà, on a quand même grandi aussi une partie de notre vie assez seule tous les deux. Donc il y a ça. Et les livres, c'était vraiment de un l'ami imaginaire et tous les scénarios que je me faisais dans ma tête. Et en fait, j'ai grandi en étant à la fois Emma Bovary et plein d'autres héroïnes, Phèdre, tu vois, genre vraiment la littérature classique, etc. Ça a vraiment construit énormément de scénarios dans ma tête. Et c'est vrai que quand j'étais pas plus petite, c'était vraiment pas fame. C'était lire dans les couloirs pendant ta pause déjeuner, c'était pas stylé. Passer tes après-midi à la FNAC à rêver face à des couloirs, c'est pas tendance. Et j'ai quand même ma mère qui m'a dit bon, en fait c'est toi qui as raison, vas-y ma fille, lis François Sagan, lis tout ce que t'as envie de lire et tu verras, ça va t'aider. Donc du coup voilà, c'est une grande partie de ma vie. Puis du coup ça fait tellement partie de ma vie que j'ai fait un bac littéraire, puis après j'ai fait une licence de lettres. Licence de lettres moderne, j'avais des cours de littérature française comparée, toute la journée en fait, c'était ouf quand je me dis que je faisais ça, c'était incroyable. J'étudiais les lettres pendant des années, j'ai fait une licence de 3 ans où j'ai étudié la littérature, mais c'était incroyable. Donc bien sûr ça pose des questions au niveau des bouchers, etc. Mais c'était ouf. Et puis à un moment je suis passée à autre chose, j'ai fait d'autres études, je me suis lancée dans la communication, mais voilà, ça a vraiment fait partie de ma vie. Et encore aujourd'hui, il y a très peu de journées que je passe sans lire, même sans écrire, parce que en fait la pratique de la lecture, elle est liée aussi à l'écriture. À un moment, si jamais c'est ton truc, t'as envie d'écrire parce que t'es inspirée. Puis avoir envie d'écrire, c'est aussi avoir envie d'être lu. Et donc du coup, je pense que c'est aussi en lien avec le média, bonne à marier, avoir envie d'être entendue. Et là, je suis vraiment dans un travail d'écriture en ce moment, plus que d'enregistrement ou de vidéo. Et donc du coup, une réponse tellement longue pour dire que je suis passionnée de littérature. Mais voilà, et quand j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux pour parler féminisme, je me suis rendu compte que j'étais peut-être légitime à parler de littérature, quoi. Et comme j'avais passé le frein de me dire ok, là il y a mon visage qui est sur les réseaux, fais ce que tu veux. Maintenant aujourd'hui, il y a un an et demi, à chaque fois que je prenais mon téléphone devant moi, j'étais très stressée juste de parler. Et maintenant aujourd'hui, je m'en fous, quoi. Je suis super libérée par rapport à ça, à ce que les autres vont penser et tout ça. Et donc je me suis dit à mon quotidien, ok, c'est le féminisme, mais c'est aussi la littérature classique et on va en parler. Et TikTok a eu ce tour de force de chercher 100 critiques littéraires en France pour la rentrée littéraire, pour les aider à parler des nouveaux bouquins, etc. Et il y a encore un an, BookTok, donc c'est le hashtag culture de TikTok, n'était pas encore très répandu, et donc il y avait un casting et en gros, il fallait envoyer une critique littéraire. Et je me suis dit, mais en fait, ce casting, il est fait pour moi parce que ça va pas me demander de travail. J'ai juste à envoyer une vidéo que je fais déjà, que j'ai déjà fait, et c'est bon, c'est juste en un mail, quoi. Je vais pas me prendre la tête. Il s'avère que j'ai été prise, et donc du coup, ça m'a fait recevoir des livres, du coup, gratuitement, en l'échange d'une critique littéraire. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à en faire, et les maisons d'édition ont accroché sur ce que je disais. Donc, on m'envoie aujourd'hui des livres, et donc être booktalkeuse, c'est parler de ton amour pour les mots, en fait, déjà, parler des sorties littéraires et faire des vidéos courtes qui expliquent pourquoi t'as aimé ce livre. Mais en même temps, il y a plein de tendances sur TikTok. En fait, il y a énormément de créativité, donc le hashtag BookTok et le BookTok en général, c'est une communauté de passionnés de livres et littérature, et elle est grandissante et en fait c'est trop cool parce que c'est aujourd'hui voilà, la littérature c'est fame et je trouve ça ouf. Je trouve ça vraiment ouf, ce changement de paradigme. Je pense qu'il y a encore des petits garçons et petites filles qui se font harceler dans les couloirs parce que ils sont pas en train de je sais pas, de faire quoi, mais de faire autre chose. Ouais, d'être sur leur téléphone ou d'être tendance sur les réseaux ou de, je sais pas. Ça, c'est, j'aimerais bien que quelqu'un leur dise que t'inquiète pas, ça va aller. Mais surtout, voilà, maintenant, c'est tendance et c'est cool, quoi. C'est trop cool.
Trop bien. Et quel livre tu recommanderais de lire à toutes et tous ?
Bah, je vais peut-être parler de... Bah, je sais pas, déjà d'un homme, ça fait longtemps et j'ai pas envie qu'on croie que je ne parle que d'homme, mais peut-être d'un auteur, peut-être classique. Tu vois, je suis en train de regarder un peu ce qu'il y a devant moi, là face à ma bibliothèque. Je vois beaucoup de Proust, mais Proust, c'est pas facile. Je pense qu'à La recherche du temps perdu... il y a je sais plus combien de tomes et lire un tome par an c'est la bonne technique. Donc non, peut-être pas Proust parce que c'est un peu galère, mais bah ouais, en fait si, je sais, il a, en fait il me saute aux yeux, Georges Samprin, L'écriture ou la vie. Ça parle des camps de concentration et ça parle de ce retour à la vie à la fin des camps de concentration, donc d'un résistant qui a vécu ça et comment en fait l'écriture lui a sauvé la vie et comment en fait quand tu sors d'une expérience traumatique et l'expérience la plus traumatique sur Terre peut-être, comment en fait la vie a été dérobée et comment l'écriture devient un passage peut-être obligatoire pour faire face à ce trauma. Comment c'est très difficile parce que t'as l'impression de plus pouvoir écrire sur ce sujet parce que y a trop de réminiscences, et comment à un moment faut que tu fasses un choix entre survivre et entre mourir, quoi. C'est un livre qui te prend au corps, c'est vraiment parce qu'en fait je pense que ce qu'il raconte peut être transposé à plein d'événements traumatiques, et moi je pense que l'écriture c'est extrêmement thérapeutique. J'invite tout le monde à écrire, même dans tes notes de ton téléphone, 2-3 phrases. Moi, des fois, je suis genre au feu rouge et d'un coup, je sens que j'ai besoin d'exprimer quelque chose et dans mes notes de téléphone, j'écris rapidement, il y a un peu cette fureur. Et quand tu sens que t'as cette fureur, c'est que généralement, il y a un truc que tu dois faire face, en fait. Je suis vachement dans ça en ce moment et ce livre m'inspire énormément. Vraiment, c'est beau, c'est puissant, c'est historique aussi, ça c'est important. Moi, j'aime beaucoup dans la littérature classique... des choses historiques. Je pense aussi à L'immeuble Christadora de Tim Murphy, qui a un roman qui mêle plein d'art, qui mêle à la fois le côté historique parce que ça parle du sida, de la période sida, c'est à la fois un roman artistique parce que ça parle du graffiti, du street art, c'est à la fois un roman poétique parce qu'il y a des passages, tu pleures quoi, donc ça c'est vraiment ma came quoi, genre quand ça mêle différents courants, quand c'est pluriel, c'est ça. Et putain, t'as vu, tu me parles de livres, je peux pas m'arrêter, mais je renoue aussi beaucoup avec la poésie. J'ai toujours lu beaucoup de poésie, mais comme je suis une drama queen, je pleure à chaque phrase, mais en fait, c'est aussi un peu comme le collage. Je pense que c'est à intégrer dans les 5 fruits et légumes par jour. Même un petit passage, tu vois, genre une petite phrase, c'est cool, en fait, la poésie, c'est... Ça te rappelle la beauté du monde, et c'est hyper cliché de dire ça, mais des fois c'est cool.
Voilà. Ouais, on en a besoin.
Ouais, la poésie, on en a vraiment besoin.
Carrément. Mais en tout cas, tu m'as donné trop envie de lire les livres. Que
mais si je peux te prêter L'écriture ou la vie, si tu veux, vraiment, c'est.
Bah ouais, carrément.
Ouais, vraiment. Ou autre chose, hein, d'ailleurs. Mais,
non, mais carrément.
Moi, c'est open bar, la bibliothèque chez moi. Cool. C'est vraiment genre, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, il repart avec un livre parce que, en fait, voilà, pour moi, le livre, c'est l'objet principal de transmission et faut que ça bouge de bibliothèque et de bar en bar. Donc. Ouais. Avec grand plaisir.
Et puis c'est magnifique de se dire qu'un livre a eu plein de vie.
Ouais.
Je trouve que c'est génial quand tu vas dans des... je sais qu'il y a quelques années, j'ai acheté un livre de Delphine de Vigan, je t'en disais tout à l'heure, c'est mon autrice préférée, j'adore ce qu'elle écrit à tous les niveaux. Et j'avais acheté Rien ne s'oppose à la nuit.
Ouais.
Donc un de ses plus célèbres, je pense, en tout cas un qui l'a fait beaucoup connaître, qui est l'histoire de sa mère. Et qui est très puissant et très bouleversant. Et en fait, dans ce livre, donc je l'ai acheté d'occasion. Et du coup, il y avait quelqu'un qui avait mis des croix à des endroits.
Trop bien.
Et en fait, je trouve que c'est extraordinaire parce que je n'ai absolument pas la réponse de pourquoi il y avait ces croix, mais en le lisant, je me disais, c'est marrant qu'il ait mis une croix là, pourquoi à la fin de ce chapitre, il a mis une croix et que sur les... Et quand tu voyais les intervalles de croix, tu savais que c'était pas un marque-page, parce que sinon ça voulait dire que la personne, elle avait lu, je sais pas, 200 pages d'un coup, enfin, c'était possible, mais c'était quand même assez peu probable, quoi. Et tu te dis, je trouve ça extraordinaire.
Genre, sur un print, je pense qu'il y a genre... une petite étiquette peut-être toutes les trois pages.
Ouais.
Donc en fait quand tu vas le lire, tu vas te dire mais attends, mais pourquoi elle a mis toutes ces croix là, parce que c'est vraiment j'ai marqué les pages à mort quoi.
Bah, c'est ça. Trop chouette. Bah, merci Zoé.
Merci à toi
pour
toutes tes questions, c'était hyper cool. Ça fait du bien de parler comme ça et merci parce que c'était hyper safe et ça c'est hyper important, donc safe place à fond et trop cool.
Trop chouette. Merci beaucoup.
Merci.
Merci belle auditrice pour ton écoute attentive qui t'a menée jusqu'ici. Épopée de femmes, c'est un podcast indépendant qui ne demande qu'à être visibilisé. Alors s'il t'a plu, partage-le sur les réseaux sociaux en me taguant @épopée-2-femmes sur Instagram ou Anna Ramos directement sur LinkedIn et laisse 5 étoiles et un commentaire si ton appli d'écoute préférée le permet. Tu peux aussi m'envoyer un message si le cœur t'en dit pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode. Ça me fait toujours très plaisir. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt dans Épopée de femmes.